Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Un podcast d'Approche Culture et Territoire.
Bonjour Ramzi Tadros, bienvenue dans ce premier épisode de Pourquoi tu cries en 2021. On a décidé de vous rencontrer pour parler histoire et mémoire du racisme à Marseille. Et pour cela, en fait, j'aurais une première question, tout simplement, peut-être pour nos auditeurs et auditrices, peut-être de vous présenter. Qui êtes-vous, Ramzi Tadros ?
Alors, je vis à Marseille depuis maintenant plus de 40 ans et j'ai une formation d'historien. Mais très vite, j'ai eu comme travail et donc comme métier d'être bibliothécaire. Et donc j'ai eu une formation classique de bibliothécaire, mais j'ai toujours travaillé dans des structures qui étaient spécialisées sur les questions d'immigration et de diversité culturelle. Ce qui m'a permis, en vivant dans cette ville, de découvrir chemin faisant son histoire, l'histoire de ces populations, et donc d'être passionné par ça.
Pour rentrer assez rapidement dans le thème qui nous préoccupe aujourd'hui, comment elle se transmet justement cette histoire ?
Je pense que justement pour parler de ça, on ne peut que regarder les choses dans leur évolution. Quand j'ai commencé à travailler en 1983, il se passait déjà beaucoup de choses. Mais on n'était pas conscient de la question de la mémoire, de la transmission. C'était plutôt réactif. Je rappelle, 83, c'est la marche pour l'égalité et contre le racisme. Et j'ai commencé mon métier de bibliothécaire dans une institution spécialisée au moment où se déroulait cette grande manifestation et mouvement. Donc, à cette époque-là, on ne parlait pas d'histoire de mémoire de l'immigration. On parlait des étrangers en France, on parlait des Arabes en France, on parlait des Algériens en France. Mais pour beaucoup, c'était une transition, un passage. Les gens allaient rentrer chez eux, ils ne resteraient pas, il n'y aurait pas toute l'histoire qu'on a connue après. Pour seul exemple, c'était juste la fin de l'époque où Valéry Giscard d'Estaing avait proposé 10 000 francs de l'époque pour que les travailleurs immigrés rentrent chez eux. Hein, ça a donné naissance à un très beau film qui s'appelle « Prends 10 000 balles et casse-toi ». Donc on voit bien qu'à ce moment-là, les choses sont en train de changer. Et cette marche pour l'égalité et contre le racisme était une réaction tellement forte, symboliquement, alors que peut-être à l'époque on ne l'a pas vu tout de suite, mais c'était vraiment une action d'ancrage dans le territoire. Nous sommes ici, on ne demande pas des choses extraordinaires, on demande seulement l'égalité et on veut que le racisme s'arrête. Et c'était une période très difficile en termes justement d'actes racistes. Hein, il y avait eu plusieurs jeunes qui avaient été tués.
À Marseille, plus qu'ailleurs ou généralement ?
C'était national. Hein, beaucoup à Lyon aussi, à Marseille aussi, bien entendu. Sans raison, on tirait sur un gamin, un jeune, etc. Et ce mouvement va vraiment décloisonner la question de l'immigration aux yeux de beaucoup de gens et surtout des spécialistes. C'est à partir de ce moment-là qu'on va s'intéresser à justement la deuxième génération. Donc il y a une première, une deuxième et une deuxième qui revendique. Donc la question de l'immigration n'était pas quelque chose de passager, des gens qui viennent travailler puis qui repartent dans le pays. Et d'ailleurs, parallèlement, c'est aussi la montée du Front National et des idées d'exclusion. Parce que avant, on n'en parlait pas, ça se passait, il y avait les meurtres racistes, comme en 73, période très connue, alors là particulièrement à Marseille, où il y a eu plusieurs morts assassinés, surtout des Algériens. Donc ça, c'est 73, mais 83, c'est des gamins. Donc on vise vraiment symboliquement la génération qui vient. Et c'est aussi le moment où ça va exploser progressivement, si on veut dire, la présence dans les médias des idées racistes à travers le discours de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Voilà. Et donc, c'est à partir de la réaction un peu à la fois des militants, des partis, des groupes, mais surtout des chercheurs, qu'on va avoir une autre vision qui va s'installer de l'immigration. Et de mémoire de bibliothécaire, parce que comme je travaille dans un centre spécialisé, la lumière vint avec deux livres, un de Gérard Noiriel, Immigré prolétaire, et celui de Edwige Plenel, qui a écrit L'effet Le Pen. L'effet Le Pen. Alors, Gérard Noiriel, avec son livre Immigré et prolétaire, effectivement, rien qu'avec le titre, il mettait en lien la question de l'immigration avec une question sociale qui date du 19e, voire avant. C'est le début de beaucoup de réflexions et d'actions sur ce thème-là. Mais ça va mettre du temps pour arriver. Et pour moi, en tout cas, personnellement, en parlant de mon expérience de bibliothécaire spécialisé sur ces questions, on va observer la société. Et si je vraiment parle en tant que bibliothécaire, je dirais qu'à même à cette époque-là, à part Edwige Plenel et Noiriel, et bien d'autres bien sûr, on parlait de racisme déjà, hein, il y avait beaucoup de travaux sur le racisme, etc. Mais ce que j'ai constaté, c'est que on ne parlait que d'alphabétisation, de questions de logement, de questions de santé, de questions de retour et de questions d'argent, c'est-à-dire combien ça coûte l'immigration, combien les immigrés envoient dans le pays. Mais on ne parlait pas, par exemple, d'éducation beaucoup, de culture, d'histoire et de mémoire. C'est plutôt dans les années 90 et un peu plus tard, hein, fin 90, début 2000, que les choses vont vraiment apparaître fortement d'une nécessité, d'un besoin de mémoire et d'histoire.
Et c'est à ce moment-là que vous avez l'idée d'approche culture et territoire, si on revient un petit peu dans les raisons d'être de l'association.
C'est concomitant, hein, c'est-à-dire que je travaillais dans une structure spécialisée encore, et on a voulu, presque par nécessité, commémorer la marche pour l'égalité de 1983, donc on est en 2003, 20 ans de marche pour l'égalité. Et dans la même année, on a aussi fait un colloque sur les luttes des travailleurs immigrés en 1973. Il y avait eu de grandes grèves, etc., etc. Et là, nous avons convoqué beaucoup de sociologues, etc., etc., et des premiers historiens qui vont vraiment travailler sur cette question. Mais c'est là aussi que naît en France, l'idée d'un musée de l'histoire de l'immigration, mais ce n'était pas l'idée d'un musée, c'était la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Les premières enquêtes, c'est 2003-2004. Alors, c'est un moment où je quitte une structure pour désaccord sur... j'étais responsable d'un centre de ressources, désaccord profond sur qu'est-ce qu'il faut faire. J'avais proposé un projet sur l'histoire, justement, de l'immigration. Donc, le conseil d'administration avait rejeté cette idée. Pour des raisons, je crois, plus de gestion stupide. C'est pas question de manque d'intérêt. Hein, c'était des gens quand même qui étaient conscients de l'intérêt de cette question, mais je ne sais pas, en tout cas ils ont refusé. J'ai quitté, et du coup je cherchais à reprendre mon idée, mon projet, mon expérience, et la proposer à des institutions ou à d'autres associations. Alors, à ce moment-là, la question de l'histoire était, disons, à un niveau très général et pas encore vraiment mise en œuvre, parce que la Cité nationale de l'histoire de l'immigration était en balbutiement. Et donc, du coup, comme j'étais dans des réseaux quand même qui s'intéressaient à toutes ces questions, j'ai été pratiquement aux premières réunions de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, pas constitutive, mais celle qui préparait son ouverture, hein, en tant qu'association marseillaise. Et pour parler d'approche culture et territoire, le projet de départ, c'est d'être au service, un centre de ressources au service des acteurs, des associations, mais aussi des institutions, des éducateurs, de la communauté éducative, en matière de lutte contre les discriminations et d'intégration, de lutte contre le racisme. C'était très général. Nos premiers contacts avec les institutions qui s'intéressaient à ces questions et qui voulaient bien financer un projet ont tourné autour de la question de l'éducation. Donc, poser la question, quelles ressources peut-on trouver et transmettre aux enseignants pour que la diversité culturelle, la lutte contre les discriminations soit efficace. Donc, c'est ce que ACT a fait un peu en réponse à cette demande-là. Sauf que très vite, on s'est rendu compte que même en parlant d'éducation, il y a la question de l'histoire qui vient au milieu. L'histoire, à la fois de l'éducation, de son évolution, mais aussi l'histoire enseignée à l'école. Et là, on commence à découvrir des énormités.
Comment on la raconte, cette histoire, justement, de l'immigration ?
Pratiquement pas. Hein. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement rien, à part, on va un peu parler des Trente Glorieuses et de l'arrivée d'immigrés, mais toujours dans la conception dont on a parlé au début, c'est-à-dire des gens qui viennent, qui vont partir, etc. Et surtout, tout ça enrobé dans une vision de l'histoire qui est très centrée, eurocentrée. Très peu de la colonisation, et en tout cas, quand on parlait, c'était de manière très évasive et moraliste, pas du tout en termes historiques. Et alors, par exemple, la question de l'islam, c'était traité de manière, à mon avis, très erronée, puisque on parlait de l'islam que dans des moments de confrontation historique. Hein, je parle bien de l'histoire. Hein. Les croisades, bien sûr, le moment de l'expansion de l'islam, les croisades et au moment des indépendances, et c'est tout. Mais d'autres périodes, d'autres échanges, d'autres types de rapports, en tout cas, même en termes de ces périodes de confrontation, on problématisait pas pourquoi il y a croisade, et pourquoi il y a réponse aux croisades, etc. etc. Donc, dès le début, nous, à ACT, on est en 2006-2007, on parle d'abord forcément d'éducation, mais très vite, comme je l'ai dit, un an après, 2007, on commençait à traiter de cette question d'histoire, et on était en lien aussi avec le réseau qui se constituait autour de la Cité nationale d'histoire de l'immigration. À ce moment-là, on a commencé par le petit groupe que formait Approche Culture et Territoire au début, a lancé auprès de justement des institutions qui finançaient ACT, des contacts qu'on avait, etc., l'idée de travailler la question d'histoire. On nous a dit, enfin, je me rappelle très bien, il faut des historiens pour faire ça. Bon, je n'allais pas en pleine réunion officielle dire que j'avais fait des études d'histoire. J'ai laissé tomber. Et puis, quand on a proposé un projet plus structuré, tout doucement, pas question, c'est encore trop tôt, etc., etc. Alors, les mêmes qui disaient ça, un an après, 2008, nous appellent et nous demandent de travailler sur des questions, pas que nous, pas que Actes, mais d'autres, aussi sur la question d'histoire. Parce qu'il y a des injonctions au niveau national et que, surtout, il y a eu une étude énorme qui a marqué en France, en tout cas, qui était dirigée par Gérard Moriel. Dans toutes les régions de France, on a étudié la question de l'histoire de l'immigration. On voyait la complexité et surtout les absences. Les manques. Une des premières réactions quand on veut travailler cette question, on va parler de chiffres. Les flux, les gens qui partent, les gens qui reviennent, le stock qui reste, etc. etc. On va parler beaucoup de nationalité. On va parler de travailleurs, même en abordant la chose d'un point de vue historique, alors que, au bout, quand on creuse, il y a énormément d'autres questions qui vont apparaître. Qui sont déjà en l'air, déjà dès la fin des années 90, par exemple, la question de la culture, de la musique. Ces travailleurs n'étaient pas uniquement là pour habiter, manger, dormir, métro, boulot, dodo. C'était aussi des gens qui avaient des traditions culturelles, une culture, des langues et aussi de la musique. Et par exemple, j'aime beaucoup ça parce que même moi qui travaillais avec et lié avec beaucoup d'associations et d'amis issus de cette immigration, j'avais été choqué par l'apparition d'un documentaire sur les Scopitones. C'est on appelle ça le trésor des Scopitones. Dans les années 95, 96, il y a quelqu'un qui a découvert des petits clips sur l'immigration qui circulaient en fait dans les bars, dans les cafés, dans les d'immigrés et qui proposaient des chansons alors algériennes, marocaines, tunisiennes, berbères, même égyptiennes, etc. et qui étaient destinées à ce public-là. Donc d'un coup, il nous apparaissait en plein visage, un monde. Et du coup, ça a orienté aussi nos travaux. Et ça a orienté nos travaux de plus en plus sur la question des gens, de leur histoire, de leur parcours, et du coup des quartiers, là où ils habitaient, des bidonvilles. Et bien entendu, tout ça en lien avec cette question de discrimination. Et ça a été un foisonnement de découvertes, et d'ailleurs qui reste toujours en friche, hein, parce qu'il y a des choses qui sont faites, mais voilà.
Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, barbelé.
Un des manques aussi, est-ce que c'est pas le regard, parce que vous avez parlé d'immigration, et en fait il y a aussi la question du racisme qui arrive très rapidement sur cette question-là, et des crimes racistes. Et il y a quelques jours, l'ouvrage de Rachid Abrahim, La race tue deux fois, sur ces crimes qui n'ont pas été racontés, en tout cas, et on a l'impression qu'en fait, elle ouvre la voie d'une mémoire nécessaire, en fait, et qui n'a pas été dite. Est-ce que c'est une absence aussi de la manière dont on transmet cette histoire ?
Absolument. Et je dirais une absence qui est doublée d'une espèce de censure. Si on parle de ça, on est mis de côté. Si ACT, je le dis franchement, avait commencé à proposer des choses sur cette question, on ne serait jamais arrivé à ce qu'on a pu faire à la fin, c'est-à-dire la mise en place d'un réseau histoire et mémoire des immigrations en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quand je vais raconter un peu comment on est arrivé à casser, si vous voulez, le silence un peu, bon, j'exagère un peu, mais quand même, c'est le lancement de 4 cycles de conférences sur 4 années aux archives départementales des Bouches-du-Rhône sur l'histoire des immigrations. C'est à cette époque, c'est 2008-2009 exactement. Et là, si on avait commencé par dire 73, il y a eu ça, hein, je crois que d'abord, on n'aurait jamais été accepté pour faire des conférences, parce que là, c'était vraiment une collaboration avec les archives.
Cette histoire du racisme, elle est racontée à travers les différents cycles, sans en faire un objet, voilà. Mais forcément, elle fait partie de l'histoire que vous transmettez.
Absolument. Hein. La question de l'histoire de l'immigration, quand on regarde Marseille, c'est d'abord l'exclusion géographique. Mais, par exemple pour Marseille, contrairement à d'autres villes, comme au 19e jusqu'au milieu du 19e, le port est dans la ville, au cœur de la ville, et ben c'est quand même beaucoup d'étrangers, on va dire, qui vivent autour de ce port-là et dans le centre-ville. Du coup, bon, il y a aussi des périodes où il y avait une quarantaine, où on mettait tous les personnes qui ne voulaient pas, mais il y avait aussi les murs de la ville, où les gens étaient à l'extérieur. Donc on a beaucoup travaillé aussi avec le musée d'histoire de Marseille, pardon. Et après les archives, le grand cycle de conférences a été avec l'Alcazar et le musée d'histoire. On parle de racisme, c'est exclusion, discrimination. Quand on regarde ce qu'il y a dans les musées en général, ça n'existe pas. Ce n'est pas là. Et particulièrement dans le musée d'histoire de Marseille, très bizarre, il y a dernièrement, depuis 2011 seulement, un espace sur l'histoire des immigrations, peu fourni, en tout cas peu fourni sur la vie des gens ici, des immigrés, des étrangers, et surtout, selon les époques, vous allez faire même le tour maintenant, je crois que ça n'a pas changé, il y a un casque d'un mamelouk, sans explication. Il y a une stèle en arabe.
Sans traduction.
On ne sait pas de quoi il s'agit. Il y a une mandoline italienne, napolitaine, toute seule, pas d'explication, de dire qu'il y avait tant de napolitains, etc., etc. Si bien que moi, aujourd'hui, enfin, en conclusion de mon travail, puisque maintenant je suis à la retraite, les derniers temps, je disais, c'est une erreur monumentale d'avoir fait un musée de l'histoire de l'immigration. Parce que ça enferme cette histoire dans un musée. Et ça permet de dire, ah mais allez voir le musée d'histoire de l'immigration. Or, ce qui manque, c'est raconter l'histoire des territoires. L'histoire de Marseille, si on prend en compte tout ce qu'on sait aujourd'hui, eh ben, elle est pleine d'immigration. Donc, je militerais, si j'étais encore militant, pour cette idée de diffuser cette histoire partout. Je vais prendre un exemple. Très simple. Une photo qui existe au musée d'histoire de Marseille. Cette simple photo est illustrative du rôle de Marseille dans l'immigration au niveau mondial. C'est un hôtel. Il s'appelle Jérusalem. En français. Sauf qu'à côté, personne ne l'a remarqué, il y a une inscription en arabe qui dit Jérusalem et la Palestine. C'est fin 19e, début 20e. Et sur une des fenêtres, il y a des destinations, donc cet hôtel, était aussi une agence de voyage pour tous les immigrants venant du Proche-Orient qui passaient par Marseille, qui prenaient des billets pour le Chili, les États-Unis, New York, Boston, etc. Il y a tous ces noms-là. En plein cœur de Marseille, juste derrière la Bourse, bien sûr, ça a été détruit. Mais à partir d'une image, vous prenez une rue et vous voyez toute l'histoire à la fois d'exclusion, mais à la fois riche de cette présence et de ce passage et de cette installation des immigrants et des étrangers à Marseille.
Alors on voit avec juste cet exemple et puis bon, tout l'entretien qu'on vient de réaliser, l'importance de transmettre cette histoire justement et de l'inclure dans une histoire plus globale, pas d'en faire un fait en soi à part de l'histoire nationale. La question rituelle de l'émission, c'est le titre. Et j'ai envie de vous demander, Ramzi Tadros, aujourd'hui, après cette carrière et après tous ces combats, pourquoi tu cries et pourquoi tu continues de crier?
Parce que, en regardant cette question et cette histoire, on ne peut qu'être enragé. Je parlerai d'aujourd'hui et je dirais que l'évolution du discours sur les étrangers qui maintenant est concentré sur la question des musulmans a été préparé, le terrain a été préparé par l'extrême droite, les racistes, les gens qui rejettent les autres, et que maintenant, et ça on peut le constater sur 35 années, et c'est le temps de ma carrière, comment progressivement, notamment la gauche, a essayé de réagir par rapport à l'extrême droite en phagocytant ses idées et ses paroles. Et n'en parlons pas de la droite, hein, souvenons-nous de Sarkozy, etc. Et ça, c'est un drame énorme, énorme, parce qu'aujourd'hui, ce discours est majoritaire, presque, majoritaire. Et on n'a pas appris la leçon de l'histoire, c'est-à-dire à chaque fois qu'on veut contrer l'extrême droite en utilisant les mêmes arguments, on finit par lui préparer le terrain encore mieux. Et ça, c'est vraiment le drame. Donc je crie, et je crierai très fort. On le voit avec ce qui se passe aux États-Unis, on le voit ce qui se passe aujourd'hui sur la question du séparatisme. Mais il faut savoir ce que vivent les gens. Ils sont déjà séparés. Ils veulent pas être séparés. C'est pas vrai. Ils veulent pas être séparés. Et on va les restigmatiser par rapport à ça. L'islam n'est pas du tout ce qui est dans la tête des gens. Et on n'en fait pas un combat d'universalisme et de véritable laïcité. On fait que exclure. Et du coup, l'extrême droite n'a même plus besoin de parler. On fait son discours à longueur de journée. Le ministre de l'Intérieur, le président de la République, tout le monde. Rares sont les personnes qui s'élèvent contre, et face à ça, la gauche aussi n'a pas d'armes. Or, pour justement l'expérience qu'on a menée à acte, l'arme, elle est là. Elle est celle de cette histoire, de raconter cette histoire, de montrer que les gens, l'immigration, c'est une histoire de vie et d'amour. C'est pas autre chose. Quand quelqu'un quitte son pays, c'est parce qu'il veut mieux vivre ou faire mieux vivre sa famille. Et ça, l'immigration le raconte. Mais je dirais qu'il y a un problème parce que c'est tellement stigmatisé ces questions que les gens ont honte de leur histoire. Je sais que les pères qui ont fait les années 50, etc., ont été très peu prolixes, je dirais même silencieux sur l'histoire, leur propre histoire. Tant que on parle de chiffres, il y a tant d'étrangers, il y a tant de machins, on perd. Quand on parle d'êtres humains, on ne gagne pas, mais on est un peu plus assurée. Et c'est pour cela que la mémoire des gens, l'histoire des gens travaillés, mis en exergue, etc., montre l'incapacité des institutions et de l'État, même aussi de la ville, d'admettre cette histoire qui est normale. Une dernière chose, ça me revient une image. On a fait tout un travail sur un quartier de Marseille qui est là depuis le 19e siècle. Magnifique. Les choses qu'on a découvertes. C'était un bidonville qui était habité par des Italiens, par des Espagnols républicains, et qui, à partir des années 50, va accueillir des immigrants algériens, puis tunisiens, etc. Petit bidonville. Il y a un rapport de la ville de Marseille, officiel des années 86, 7, je ne sais plus exactement, sur ce bidonville. Il y a plein de photos dans ce rapport officiel. Il ne montre quasiment pas une âme qui vive. Il montre des murs cassés, des rigoles, des maisons délaissées et pourries. Et puis nous, on a mené l'enquête auprès des gens et on a récolté leurs photos et on voit des mariages, des gens qui dansent, les enfants, les autre chose. Donc vraiment, cette question est fondamentale, à la fois pour la société française, mais aussi pour les gens qui sont encore stigmatisés et restigmatisés.
Comment fait-on l'histoire et comment on la transmet finalement ? Merci Ramzi Tadros.
Merci à vous.
C'était Pourquoi tu cries, un podcast d'Approche Culture et Territoire, réalisation Colline Cherbonnier.